pense que ça vient de démarrer. Effectivement, on voit l'écran. Donc, si on prend le temps de faire la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, donc je vais commencer par la lecture. Au point 3, on a l'adoption du procès-verbal de la séance du 1er avril. En 4, la gestion financière, donc l'acceptation des comptes. En 5, c'est le point qui est reporté, donc au niveau du service d'aménagement et d'urbanisme, c'est reporté. En 6, le point coronavirus, réorganisation des services de la MRC en situation de déconfinement. En 7, on va avoir quelques points, donc au niveau gestion administrative. Donc, en premier, l'autorisation des travaux par Ville-Route des Jardins de la Matapédia concernant le tronçon de la route verte dans le TNO. En 7.2, le régime de retraite simplifié, le transfert du régime à Desjardins Sécurité financière. En 7.3, le projet rue de la Congère à Val-d'Irène. Donc, trois points à ce niveau-là. La cession de, servitude à Hydro-Québec pour la ligne électrique. Cession de la rue à la municipalité de Sainte-Irène et l'autorisation pour le remboursement des sommes à la municipalité de Sainte-Irène en conformité avec l'entente. Et en 7.4, demande d'appui, diffusion mordicus. En 8, gestion des ressources humaines, donc exercice de maintien de l'équité salariale, une demande d'offre de service à Mallette. En 9, autres sujets, donc 9.1, la prochaine rencontre du comité administratif qui est le 10 juin. À 16h. Et en 9.2, formation FQM, là, c'est juste un petit point d'information comme ça. Et si vous n'avez pas d'autres points, en 10, ça serait la levée de la séance. Est-ce que ça vous convient?
Madame Laval?
Oui.
C'est Pierre Damour.
Oui, M. Damour.
Peut-être une préoccupation en regard de la. Du déroulement de la rencontre de ce soir. À 17h, il y a une rencontre régionale des élus où on va aborder des enjeux liés au déconfinement. Je mets aux participants s'il y a possibilité de suspendre la rencontre en comité de 17h à 18h, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, je vais m'organiser autrement. Là. Mais s'il y avait cette possibilité-là, je pense que j'aimerais bien y participer. Dans tous les cas, je vais y participer. Et également, je sais que l'invitation vous est lancée également. Alors, si c'est possible pour les participants de suspendre cette rencontre-là, alors je soumets ça au groupe. Merci.
Ben, moi, de mon côté, j'ai reçu un document de travail cet après-midi. J'ai déjà émis mes commentaires au comité qui va se réunir à 5h, à 17h. Puis, j'ai une rencontre téléphonique demain matin avec la ressource de la table régionale pour avoir un topo, justement, de ce qui va être discuté. Puis, donc, comme je préside la rencontre, c'est difficile pour moi de quitter cette rencontre-ci. Fait que je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui voudraient commenter. Monsieur Landry, vous avez ouvert votre micro.
Oui, Madame Lavoie, en voyant l'ordre du jour, moi, j'avais cru... En tout cas, j'avais cru penser là, qu'on finirait peut-être la petite manteau. Moi, de 18h à 19h15, là, j'ai un conflit, je ne serai pas disponible, donc j'ai un peu de difficulté là-dessus. Je me demande si on ne pourrait pas simplement, là, pour réaménager peut-être l'ordre du jour, faire en sorte que les points les plus importants, où il serait important que M. Damour soit là, puisse y assister là, à tout le moins. Là.
OK. M. Damour, est-ce que ça vous conviendrait qu'on s'adresse ici?
Oui, bien, dans le fond, j'ai soumis la préoccupation. Si ce n'est pas possible, je vais. Il est possible que je maintienne quand même la présence en comité administratif en mode sourdine et que ouais. Je débute l'autre rencontre. Mais, donc, j'ai soumis la proposition. Je vais aller avec le groupe. Merci.
Mais d'une façon ou d'une autre, si on peut quand même devancer certains points, là, peut-être, là, qui ferait justement que si vous avez acquitté, mais si on est. Si on travaille bien, moi, je pense que peut-être dans une heure, on peut avoir, en tout cas, épluché le gros de la rencontre. Là. À moins qu'il y aurait des points particuliers, là, mais on pourrait d'accord. Peut-être, oui, réaménager.
J'apprécie. Oui, ça... Et puis, si plus que mon micro est ouvert, je peux me permettre peut-être de proposer l'ordre du jour avec l'ajout du point en 9.2. Voilà. Merci.
Parfait. L'ajout au point 9, puis en disant aussi qu'on ne suivra pas peut-être là, l'ordre du jour en ordre, là, dans le fond, pour passer les points principaux, là, je demanderai l'aide à M. Lavoie aussi pour sélectionner ces points-là. Donc, j'ai une proposition de M. Damour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie ça?
Paul.
M. Lepage? Donc, ça va pour tout le monde? Ça convient? Comme je ne vois pas personne s'afficher, je considère que c'est d'accord. Donc, peut-être là, immédiatement s'assurer là, pour l'enregistrement de la séance actuellement. Monsieur Tremblay, est-ce que vous pouvez nous présenter le projet de résolution pour accepter le fait de diffuser cette séance-là publiquement?
Oui, tout à fait. Donc, c'est un projet de résolution qui vous est soumis, là, qui fait état, je ne le lirai pas en détail, mais qui fait état, dans le fond, qu'on a l'obligation, là, depuis l'état d'urgence sanitaire au niveau des séances du conseil, de tenir ces séances-là à huis clos. Il y a un décret qui a été adopté récemment par le gouvernement du Québec qui nous demande de rendre publiques les délibérations des séances de la MRC et de le faire par enregistrement et de le rendre public. Donc, la résolution va dans ce sens-là, de constater le quorum, la rencontre, et ensuite là, de faire état que la séance se déroule à huis clos et qu'elle va être enregistrée et diffusée sur le site Internet de la MRC en respect du décret qui est adopté par le gouvernement du Québec.
Merci. Question, proposition? Madame Landry. Madame Landry, vous avez ouvert votre micro, vous voulez proposer une question?
Oui, je propose.
Merci. Est-ce que j'ai un appui?
Je peux seconder, Martin Landry.
Monsieur Landry, merci. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté. Le procès verbal du 1er avril 2020, 2020, c'est ça. Vous avez reçu votre avis avec l'avis de convocation, le compte-rendu de la rencontre du 1er avril. Est-ce que vous êtes d'accord de faire la dispense de lecture puis souligner des éléments là, de correction, de modification ou des questionnements là, par rapport à ce document-là? Donc, il n'y a pas de questionnement. Est-ce qu'il y a des modifications? Ça va aussi proposer?
Proposer, je vois.
Monsieur Grenier, Monsieur Lepage, vous avez ouvert votre micro?
Seconde.
Appuyez. Merci, Monsieur Lepage. Ça va pour tout le monde? Donc, comme je n'ai pas d'intervention, je considère que c'est d'accord pour tout le monde. Donc, M. Lavoie, moi, j'y vais avec la gestion financière. Si je me fie sur vous pour nous faire un petit topo là, des points qu'on pourrait devancer ou par rapport, là, modifier l'ordre du jour là, pour avant le départ de M. Damon, ça vous convient, M. Lavoie?
Oui, on pourrait faire le point là, gestion financière, le point 6 également, je considère qu'il est important. Le point 7, il y a des points plus administratifs dans ça, c'est des suivis administratifs de certains sujets, hormis le 7.2 et le 7.4 là, qui pourraient être traités en priorité.
Okay.
Le point 8, je sais pas, c'est une discussion administrative également là, en lien avec l'équité salariale. Fait que si on peut traiter ces points-là en priorité, là, je pense qu'on peut le faire en dedans d'une heure. Là, 5 heures, on aurait terminé. Là.
Parfait, merci. On va faire. Tout le monde, vous êtes d'accord avec ça? Ça vous convient? Donc, on commencerait par le point 4, le 6, 7.2, 7.4, puis on reviendrait par la suite là, pour les autres points, comme M. Lavoie suggérait là, de revenir peut-être faire les autres points qu'on a sauté dans le fond. Ça vous convient? Ça semble convenir. Donc, gestion financière, Mme Edith, présentation, l'acceptation des comptes?
Oui, bonjour tout le monde. La liste des chèques pour la période du 3 avril au 5 mai totalise 300 273,28. On a en bleuté, comme je fais à chaque mois, là, les projets FDT et autres projets en lien avec le développement. Il y en a pour 42 555 et des quotes-parts ou remboursement de subventions là, pour exemple transport adapté. Il y en a pour 128 139 et 3. C'est-à-dire que ces deux parties-là en couleur totalisent 170 694. Donc, si on regarde plus en détail, les deux premiers chèques de la liste au ministre des Finances, c'est la part des loyers pour les baux qu'on envoie au MRN. On a la partie du 1er octobre au 31 décembre pour 7 821,96, puis la partie du 1er janvier au 31 mars, 10 759,35. Ensuite, en 34,881, ce que, comme je vous avais dit tout à l'heure, la partie du transport adapté, la caravelle, il y a une partie subvention puis une partie répartition dans ce montant-là, 120 139,03. Si on descend un peu plus bas, à partir du chèque 34 885 jusqu'à 34 897, c'est le rapport trimestriel pour les billets d'infraction, le premier trimestre de l'année, pour chacune des municipalités pour lesquelles il y avait des billets d'infraction. Ensuite, on peut descendre un peu plus bas. On a en 34 909 la boutique du plongeur. Entretien et réparation, c'est pour les équipements incendie. On a pour 1882,26. En 34 919, CIMA, c'est le plan d'intervention sécurité routière, le PISRMM, 22 247,66, tel que prévu au budget. Dans cette page-là, en 34 937, un petit peu plus haut, plus bas, je veux dire, 9, protection Garvex, c'est les tests d'hydro pour les appareils, les équipements informatiques, les inspections visuelles, 1 647,49. Dans la page suivante, la première ligne, groupe Lexis Média, c'est les publicités des offres d'emploi, des avis divers là, dans le journal Avant-Poste et publicités Internet, 2 915,73. En 34,943, Insight, c'est Office et la mémoire pour le serveur, 3 567,02. En 34,945, Juris Média, ajout de prêt sur Margil. Margil, c'est un logiciel pour calculer les remboursements de prêts là, avec les nouvelles mesures du gouvernement en lien avec la COVID. On a dû ajouter une partie dans ce logiciel-là, 1891,34. En 34,951, Maître Peintre, c'est la peinture au Palais de justice, 8 075,85. Juste en dessous, on a Mallette. La vérification des quelques redditions de compte là, dans les TNO, on a pour 20 580,53. Ensuite, en 34,962, PG Solutions Convertex, c'est pour les bâtiments non résidentiels à l'évaluation, 2 017,81. L'entretien ménager en 34,965,66 pour Palais de justice, centre administratif et caserne, 10 499,30. C'est pas mal les plus gros là, qui retiennent l'attention. Si vous avez des questions, je peux vous répondre.
Donc, questions, commentaires, je fais le tour doucement si je vois. Je vois pas d'intervention. Donc, une proposition pour l'acceptation de ces comptes-là. Monsieur Landry.
Monsieur Landry, je propose.
C'est appuyé. Madame Landry.
J'appuie.
Donc, Madame Edith, ça va pour tout le monde, là? Je pense que oui, je vais faire le tour, ça va. Donc, Madame Edith, les documents accédés, les
oui, paiements accédés, plutôt? Accédés. On en a pour 317 056,14. On a l'électricité du Palais de justice, l'assurance collective avec SSQ, la fibre avec TELUS, les remises provinciales et fédérales qu'on fait deux fois par mois, le régime de retraite. On a les déneigements Boudreau pour l'entretien des chemins d'hiver dans les TNO à Routierville, plus le rajustement pour le carburant qu'on fait en fin de saison, ce qui a été fait là. Ensuite de ça, on a la taxe d'hébergement Val-d'Irène qu'on envoie, ministre du Revenu également, TPS TVQ, mars 2020, d'habitude, et il m'en revient, mais il nous en revient cette fois-là, on a eu à en payer parce qu'on en a perçu plus. On a la carte Petro-Canada et l'électricité du centre administratif, puis les dépôts salaires pour toute cette période-là, ce qui totalise 317 056 $.
Questions, commentaires? Ça va pour ça. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'acceptation de ces paiements-là?
Paul.
Monsieur Lepage, c'est appuyé. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Madame Landry. Je ne sais pas s'il y a un problème, Madame Landry, on ne vous a pas entendu. Pouvez-vous recommencer parce qu'on n'a pas. On n'a rien entendu. Moi, je n'ai rien entendu en tout cas. Je crois qu'il y a un problème là. Ah, oui?
Je appuie. Je vais appuyer.
Merci, Madame Landry. Ça va pour tout le monde? Donc, on passerait au point 6, réorganisation des services de la MRC en situation de déconfinement. Donc,
oui.
M. Lavoie, si je ne me trompe pas?
Oui, c'est bien ça. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est plus une réflexion là, qu'on désire partager avec vous autres. Quant aux prochaines étapes ou à la phase là, de déconfinement là, qu'on connaît actuellement, compte tenu de l'évolution de la situation, des mesures, des directives gouvernementales pour quant à l'ouverture de certaines entreprises et commerces, on voulait que vous partagiez un peu les particularités de chacun des services. C'est pour ça que j'ai demandé à chacun des directeurs de participer à ce point de discussion-là. Alors, vous avez dans le document que vous avez déposé, vous avez la situation actuelle là, qui est possiblement similaire à ce qui avait été mis en place là, lorsque le gouvernement a annoncé là, les mesures là, de fermeture d'entreprise et de maintien seulement des services essentiels. On avait identifié chez nous quels étaient les services essentiels à maintenir, là, que ce soit au niveau du service incendie, au niveau de l'administration, de l'informatique, d'assainissement des eaux au potable et soutien aux entreprises. On avait fermé au public le centre administratif et la caserne incendie. On a également pris des mesures là, pour tenir nos séances là, à huis clos, comme on le fait actuellement. Et puis vous avez un résultat dans un tableau sommaire là, qui présente la situation de travail du personnel de la MRC. Là. Donc, beaucoup de télétravail, donc ce qui n'est pas essentiel et qui peut se faire par télétravail à la partir de la maison, c'est la majorité du personnel. Il y a 25 employés là actuellement là, qui fonctionnent comme ça sur 54. Il y a des employés qui sont au bureau, au centre administratif, où il se fait du travail en présence bureau et un peu de télétravail. À la caserne incendie, c'est la même chose. Les gens sont principalement à la caserne comme telle. Il y a eu des mises à pied temporaires au développement. 7 personnes sont actuellement dans cette situation-là encore. Il y a du travail saisonnier qui est hors période d'emploi, mais qui va bientôt, en tout cas, on va en discuter, là, reprendre le travail. Il y a des congés maladie et il y a des postes vacants. Dans notre réflexion, on aura à tenir compte des éléments suivants. D'abord, les directives gouvernementales qui, à chaque jour ou presque, là, viennent annoncer des mesures particulières. Donc, notamment, on a autorisé l'ouverture des chantiers de construction qui sont permis maintenant. On a permis l'ouverture graduelle de certaines entreprises et commerces de détail. Ouverture des régions aussi là, qui s'en vient, notamment pour le Bas-Saint-Laurent. Et également d'autres directives qui pourraient venir dans les jours qui viennent. Il y a une reprise graduelle qui se fait, c'est commencé chez nous au niveau des entreprises, au niveau des communautés ou des organisations communautaires. on est en expectative de comment ces organisations-là vont reprendre graduellement leurs fonctions. On doit aussi viser une continuité de nos opérations dans la mesure du possible afin de permettre là, une reprise des activités régulières de nos services. La directive gouvernementale est à l'effet aussi qui est privilégié la poursuite du travail, du télétravail, pardon, lorsque c'est possible. Et on a également produit, différents organismes ont produit des guides de mesures à mettre en place là, pour la protection du personnel et du public. Il y en a une multitude, on a suivi, plusieurs d'entre nous ont suivi des formations également là, sur les mesures à mettre en place, que ça provienne de la CNESST ou de notre mutuelle de prévention, la FUM également, a mis des directives ou des guides et des documents là, qui nous facilitent là, la mise en place là, de mesures adaptées à notre situation. Moi, ce que je voudrais peut-être en débutant demander au directeur de service de nous présenter comment il entrevoit les prochaines semaines, comment on pourrait dans les prochaines semaines se déconfiner graduellement, notamment en donnant accès au personnel au centre administratif, notamment également en permettant, avec une certaine façon, avec certaines mesures, l'accès du public à nos immeubles. Et également, selon certaines particularités des activités de certains services, comment on va déployer ces services-là tenant compte de la situation, des mesures là, et des directives gouvernementales. Je commencerai peut-être à faire un petit tour de table rapide là, avec les directeurs de services pour qu'ils nous fassent état de leurs préoccupations puis de leur situation particulière, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient que soit mis en place ou envisagé là, dans la réflexion qu'on va faire. Je commencerai peut-être avec Nathalie pour le service de génie municipal.
Oui, Nathalie Lévesque, directrice du service de génie municipal. Suite à l'autorisation par le ministre là, de la reprise des activités dans le domaine de la construction à partir du 11 mai prochain, on a des surveillants de chantier là, qui vont recommencer à travailler, puis on a des chargés de projet aussi qui vont réintégrer là, les bureaux de la MRC, probablement en version mixte, là, moitié de la semaine télétravail, moitié de la semaine au bureau. En ce qui concerne les autres employés, c'est certain qu'on va favoriser là, le télétravail là, dans la mesure du possible. Et puis, les entrepreneurs qui vont réaliser, qui vont débuter des travaux de construction vont avoir l'obligation de mettre en place eux aussi des guides de mesures au niveau des mesures à mettre en place en chantier. Fait que nos surveillants de chantier vont être soumis à ces directives-là, à ce guide-là. En plus du guide là, que la MRC va mettre en place là, pour les activités là, de ses employés. Le questionnement que j'ai, moi, là, actuellement, là, en ce qui concerne la gestion de mon service, c'est particulièrement les employés là, de plus de 60 ans là, au niveau là, des activités là, en chantier. On avait quelques surveillants là, qui étaient là, qui avaient plus de 60 ans ou qui étaient près de 60 ans. Et puis, ceux aussi là, avec des problèmes là, de santé là, qui pourraient faire en sorte là, qu'il y aurait des complications s'ils attraperaient le COVID. Grosso modo, là, c'est mon questionnement, là, c'est vraiment là, au niveau des employés là, un peu plus âgés.
OK, merci Nathalie. On pourrait enchaîner avec André Blouin, service d'évaluation.
Bonjour tout le monde, André Blouin, directeur du service d'évaluation. Nous autres, ça roule très bien. On réussit à faire ce qu'on a à faire par télétravail. J'ai trois inspecteurs là, qui peuvent aller sur le terrain. On fait les inspections un peu par téléphone. On parle aux gens, puis on leur dit on va passer, inquiétez-vous pas, mais qu'il passe quelqu'un, prendre des photos, on fait les extérieurs. On fait tout ce qui est maison, de travaux, de garage, On a fini la modernisation des dossiers non résidentiels qu'on appelait commercial, industriel, institutionnel. Ça, on a fini par passer au travers de ça. Là. On a fini la semaine passée. Là. Ça fait que c'est une grande étape là, dans au service. Puis pour ce que le produit, là, on réussit à garder la cadence, puis ça va au moins aussi bien qu'au bureau. La demande que j'aurais, moi, c'est que ce qu'on voit un peu ailleurs, c'est que, étant un service essentiel, la MRC pourrait donner un avis que les inspecteurs peuvent aller prendre des photos. C'est sûr qu'on ne rentre pas aux maisons, là, puis quand on y va, les gens le savent. On a déjà appelé la Sûreté du Québec et on dit qu'il n'y avait pas de problème parce que les gens, quand ils ont fini une municipalité, exemple, la Côte-Saumont ou une autre, ils en font deux, trois, puis une journée, ils vont prendre des photos. Ça fait que là, il y en avait surtout un ou deux qui faisaient ça, là, ils vont être trois sur le terrain. Là, parce que les permis rentrent, il faut faire le suivi. On est en train de finaliser le château Bellevue, là. Ça va se finir sous peu. En tout cas, on est supposé se finir sous peu. Puis tout va bien, vraiment au service. Là. Puis pour le télétravail, les gens se sont habitués. Il y en a déjà qui en avaient déjà fait. Puis ça va bien. Puis on va mixer ça là, avec aller au bureau parce qu'il y a des dossiers chargés le portable qui vont sur le terrain. Ça va beaucoup mieux à partir du bureau. Là.
Merci, André. On enchaînerait avec Steve Ouellet, directeur du service de développement.
Oui, bonjour tout le monde. Steve Ouellet, directeur du service de développement. Bien, nous, de notre côté, dans le service de développement, on a 5 personnes là, qui sont maintenues, qui ont travaillé soit occasionnellement au bureau ou en télétravail. Principalement pour le service aux entreprises, supporter nos entrepreneurs là, qui ont eu une période assez ardu. On avait 7 personnes qui ont été mises à pied temporairement. J'ai eu l'occasion de discuter avec toutes ces personnes-là lundi matin là, pour être capable qu'ils reprennent en selle, de faire une vérification avec, dans le fond, là, les intervenants avec qui ils travaillent habituellement. Quand je pense au niveau des conseillères en développement local et territorial, ils ont eu le mandat de contacter leur municipalité pour commencer à évaluer les besoins, voir les différents dossiers prioritaires à traiter dans les prochaines semaines. Au niveau là, de notre conseiller en développement culturel, de faire le tour au niveau des organismes culturels et de voir les principaux besoins. Même chose au niveau touristique. Donc, les employés ont à me dresser un peu là, la liste des dossiers qu'ils auraient à traiter prioritairement dans les prochaines semaines, soit de façon sporadique à environ 5 heures semaine, ou soit pour être capable de les ramener au travail là, prochainement dans les prochaines semaines. Donc, pour bien évaluer la charge de travail qu'ils vont avoir à faire. Le but, dans le fond, c'est de les ramener, mais avec la possibilité de faire du temps plein puis de les occuper là, sans avoir à craindre une autre mise à pied, là. Ça, c'est la première des choses. C'est sûr que nous, on est capable de faire une grande partie en télétravail. Si on a une présence occasionnelle au bureau, je pense que ça complète bien. Parfois, il faut venir chercher des dossiers, il faut être capable d'avoir accès à certaines informations. Donc, l'accès au bureau est intéressant. Présentement, le défi qu'on voit, c'est que quand on a rencontré des entrepreneurs pour justement avoir à les soutenir, ça peut bien se faire par téléphone, ça peut bien se faire par visioconférence. Mais dans certains cas, la possibilité de pouvoir les rencontrer au bureau, ça reste que ça pourrait être un besoin qui pourrait être important. On est quand même capable de continuer à travailler sur la méthode actuelle, mais éventuellement, là, dans les prochaines semaines, si le public peut avoir accès au bureau, on pensait entre autres peut-être faire ces rencontres-là comme dans la salle du conseil, entre autres, où on pourrait respecter la distanciation puis avoir des mesures qui pourraient protéger autant le personnel que de protéger, dans le fond, le public. Donc, on a cette particularité-là, mais ce n'est pas une urgence encore, là.
Merci, Steve. On pourrait demander à Ghislain Paradis, directeur du service incendie.
Oui, bonjour, Justine Paradis, directeur du service incendie. Peut-être en débutant, une précision en collaboration avec Mario. On a fait l'acquisition de masques pour protéger nos employés, autant nos employés que les visiteurs. On a acquéri des masques jetables, des masques lavables, des lunettes, des gants, on a de l'alcool pour nettoyer les mains. On a vraiment tout ce qu'il faut pour protéger tout notre monde. D'ailleurs, on est en train de distribuer à tout le monde tous ces équipements-là à l'intérieur de la MRC. De notre côté, pour la partie du travail, il n'y a pas gros changement. On était tous au travail. Pour l'accès au public, ça va être facile parce qu'on a déjà un accès contrôlé, que les gens n'ont pas accès à nulle part dans les bureaux. À ce moment-là, si on a rencontré quelqu'un, on va le faire entrer dans la salle de formation et par la suite décontaminer cet endroit-là. On a eu l'autorisation aujourd'hui de redébuter la formation tout en respectant la distanciation et les équipements. On va regarder prochainement pour redémarrer les pratiques des pompiers, toujours dans le même cadre. Nos pompiers, ça va bien parce qu'on a déjà, nous, quand on intervient, on porte l'appareil respiratoire, donc on ne peut pas avoir meilleure protection que ces équipements-là et on décontamine nos pompiers à chaque fois qu'on intervient. On est en train de regarder du côté prévention, on n'a pas eu de hockey encore de personnes. On est en train de regarder, de changer notre façon de faire les inspections cette année, en train de regarder un site sur Internet qu'on pourrait nous permettre d'envoyer des questionnaires aux gens. On veut regarder comme l'évaluation, qui prennent des photos extérieures par la suite des téléphones au public. On est en train d'évaluer ces possibilités-là. Le reste, tout va bien. Tout va bien.
Merci, Ghislain. Mario Turbet, directeur du service de foresterie.
Oui, bonjour tout le monde. Donc, c'est ça, la foresterie était considérée comme un service essentiel. Donc, pour ce qui est du reboisement, préparation de terrain, dégagement, les opérations vont débuter dès que la température va le permettre. Donc, c'est la neige présentement en région qui nous limite. Par exemple, les entreprises auront à mettre des mesures en place pour respecter la distanciation et autres. Pour notre part, nous, on va continuer à faire du télétravail avec des présences au bureau occasionnelles pour régler la paperasse. On est capable de fonctionner pareil en évitant les rencontres au bureau, donc on va procéder par téléphone, par visioconférence. Selon les directives du déconfinement, bon, on va peut-être avoir des rencontres sur le terrain en maintenant la distanciation, là, une fois que les opérations vont débuter.
Merci Mario. Je pense que le dernier service serait aménagement, urbanisme, inspection. C'est Frédéric Desjardins, directeur par intérim, qui va nous présenter son...
Oui, bonjour Mario. Donc, c'est ça. Nous, on a vraiment deux situations assez distinctes. Une situation un petit peu plus simple qui concerne le directeur du service et aménagiste, l'urbaniste et le technicien géomatique, qui sont des postes qui se font normalement au bureau avec peu de rencontres avec le public, pour ne pas dire pratiquement aucune. Donc, ça va bien. Ça se fait très bien en télétravail. On a eu déjà quelques rencontres avec différentes organisations, des formations et au niveau des différents comités, des différents suivis, là, on a probablement un CCU qui s'en vient. Tout se fait quand même de façon assez simple. Au niveau du déconfinement, ce qu'on voit, c'est beaucoup des mesures relativement simples à court terme. Ça va être un retour au bureau avec des possibilités de télétravail occasionnel. Toujours en gardant en tête qu'il faut limiter autant que possible les rapports entre personnes, puis faire les rencontres d'équipe, idéalement en visioconférence ou en appliquant des mesures très strictes sur les distances à respecter lors des rencontres. Puis là, il y a toute la question au niveau là, des supports d'hygiène, les masques et tout ça qui va être analysé puis probablement préconisé. Puis c'est ça, comme je disais, ça va être beaucoup en misant sur la visio, les rencontres par téléphone, visioconférence et aussi si on a rencontré des gens ou des citoyens, si on a pensé que l'aménagement de la salle d'entrevue là, avec entre autres des plexiglas puis la disponibilité de produits désinfectants, des gants, tout ça, serait une bonne approche. Où c'est un petit peu plus compliqué, c'est pour le service d'inspection. Actuellement, ça fonctionne bien. Le seul problématique, c'est ça, c'est qu'on est en manque d'un inspecteur. On est toujours en recherche pour le poste, mais ça se fait par télétravail. Les inspecteurs émettent des permis soit par courriel ou par courrier, puis communiquent avec soit Daniel Issou ou avec les bureaux municipaux. Il y a très peu d'inspections sur le terrain. On en a eu quelques cas aujourd'hui et hier là, d'urgence environnementale, mais pour l'instant, ça se limite vraiment à des urgences. À court terme, ce qu'on voit, puis ce qu'on ce qu'on aimerait, parce que là, il va falloir augmenter un peu la cadence. Et, c'est un peu la question qu'on se pose, c'est les rencontres sur rendez-vous avec toute la question des bureaux municipaux. Parce que, bon, les inspecteurs sont appelés à se promener dans les différents bureaux des municipalités. À cet effet, chaque municipalité a des attentes assez différentes. On a transmis un questionnaire la semaine dernière, puis on a ça, quelques réponses. Puis on a, pour l'instant, il y a beaucoup de points d'interrogation, même du côté des municipalités, donc c'est en développement, mais on voit que certains ont une certaine ouverture à perpétuer le télétravail, d'autres un retour à la normale plutôt que prévu. Fait que d'ici une semaine ou deux, on pourrait arriver avec une, je pense, une approche, là, un plan pour chacune des municipalités assez précise. D'une façon ou d'une autre, dans les municipalités, tous les lieux où les inspecteurs vont devoir rencontrer des citoyens, il va falloir aménager des salles de rencontre là, avec plexiglas, toujours la même chose que j'ai mentionné tout à l'heure. On a parlé aussi de bacs de dépôt pour les plans et documents, là, pour les laisser le temps passer un petit peu pour éviter des contaminations. Et toujours, malgré tout, autant que possible, favoriser les rencontres par téléphone et par courriel, puis limiter les rencontres par personne autant que possible. C'est sûr que nous aussi, la problématique particulière, qu'on a un nouvel inspecteur à former, puis considérant qu'on ne trouve pas d'inspecteur d'expérience avec la formation, c'est sûr que cette personne-là va devoir être accompagnée probablement, là, notre vétéran qui est Karine. Fait qu'on a un défi aussi comme comment favoriser un contact, une proximité pour qu'elle puisse apprendre, mais en gardant la distanciation. Ça, ben, on va y aller en respectant les normes de base, là, les 2 mètres, les masques et tout ça. S'assurer aussi d'une surveillance accrue sur le territoire, là, sans favoriser les contacts avec les citoyens là, pour éviter ça, pour éviter les contaminations. Donc, puis aussi, ben, c'est ça, la grande question, une autre des grandes questions, c'est la question des inspections à l'intérieur des bâtiments. Pour l'instant, c'est pas permis. C'est pas permis. Les inspecteurs n'en font pas, puis c'est quelque chose qu'on se dit qu'éventuellement, il va falloir aller de l'avant, mais toujours avec des mesures, justement, pour éviter les contaminations.
Merci Frédéric. Ça compléterait le tour des services. Peut-être pour préciser au niveau administration, au niveau de l'administration, c'est la majorité du personnel est en place, sur place au bureau, sauf Joël, là, le secrétaire adjoint qui fait du télétravail presque à 100%. Évidemment, les services qui sont donnés, on est quand même en situation, là, chacun à son bureau. On respecte on fait pas de rencontres là en groupe puis tout ça. Par contre, les services qui sont donnés, c'est tous des services essentiels là pour poursuivre nos opérations. Là, on fait la comptabilité, la gestion des payes, l'administration générale, au niveau de la greffe, des communications, les séances du conseil et du comité administratif se poursuivent comme d'habitude, d'une façon différente, mais ça implique le même niveau de travail pour le personnel qui a à préparer ces rencontres-là. Et les dossiers au niveau administratif se poursuivent, là, tous les orientations qui avaient été identifiées, là, lors de l'adoption du budget sont en cours de réalisation. Donc, on n'a pas pris de retard de ce côté-là. Bon, ça ferait le tour un peu de la situation actuelle puis des particularités de chacun des services là, qui pourraient faire l'objet de discussions là, pour les prochaines minutes, là, notamment le point principal, c'est de déterminer est-ce qu'on devrait ouvrir le centre administratif principalement. La caserne, c'est peut-être moins fréquenté là, par le public. Est-ce qu'on devrait, quand est-ce et comment on devrait ouvrir le centre administratif au public, notamment M. Ouellet a parlé là, des rencontres des entrepreneurs là, pour des dossiers là, qui ça serait plus facile de faire en personne. Aussi des personnes qui ont à venir à la MRC là, pour soit rencontrer un employé ou soit déposer des dossiers qui veulent qu'ils soient traités. Ça, actuellement, c'est pas permis. Alors, ça, c'est une question que je vous demande là, de votre opinion là-dessus, parce que je veux peut-être nommer tous les cas. Là, si vous avez des commentaires à faire, on pourrait les faire sur l'ensemble. Là. Les autres points, c'est ce que M. Desjardins vient de parler, là, la question du service dans les bureaux des municipalités pour les inspecteurs, la question de si... je pense que ça, notamment, on peut s'ajuster en fonction de chaque municipalité, là. Mais le niveau de service, pour s'assurer que les travaux se font correctement, il faudra envisager éventuellement là, d'avoir des contacts là, avec les citoyens là, qui demandent des permis lorsque c'est pas possible de le faire en télétravail ou par téléphone ou à distance. Les autres points aussi, M. Ouellette a parlé là, de commencer à envisager le retour au travail des personnes qui avaient été mises à pied parce que par manque de travail, dû au fait que ces personnes-là travaillent avec les communautés, puis font souvent des rencontres, donc compte tenu que les rassemblements n'étaient pas permis, ça avait affecté beaucoup là, la somme de travail à réaliser. Puis en même temps, je pense que c'est important de signifier que idéalement, si on commence à faire intégrer ces personnes-là, ben c'est avec un objectif de les faire travailler à temps plein, là, à moins d'une situation qui devrait établir qu'on fait un pas en arrière, notamment si il y a une deuxième vague de contamination là, qu'on pourrait anticiper. Alors, c'est ces principaux points-là. Puis, un autre point qu'un comité, j'ai oublié de mentionner, là, mais que notre comité de santé et sécurité au travail a commencé à regarder, ben, c'est des directives, des mesures adaptées à notre situation pour justement permettre un déconfinement là, graduel de nos activités. Donc, il faudra mettre en place des mesures puis informer le personnel des mesures à suivre. Puis selon la situation aussi là, des employés, notamment ceux qui vont travailler à l'extérieur en chantier, ceux qui vont rencontrer du personnel, du public, etc. Donc, notre comité de santé et sécurité au travail est en train d'établir ça. Dans les plus brefs délais, on devra établir les mesures à mettre en place pour informer le personnel avant d'entreprendre là, un déconfinement quel qu'il soit. Alors, c'est ce que je voudrais vous entendre là-dessus, peut-être en comparaison avec ce que vous prévoyez dans vos propres municipalités, comment vous envisagez là, le déconfinement graduel là, des services à la MRC.
Merci, M. Lavoie. Je regarde s'il y a des micros qui s'ouvrent. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des éléments... Ça va? Monsieur Landry?
Madame le préfet, Martin Landry, pour notre part, chez nous, on continue de suivre les orientations gouvernementales, donc décision que le gouvernement prend tranquillement, par séquence, il ouvre certains services, donc déconfine tranquillement. Pour ce qui est du bureau municipal, pour notre part, ça demeure fermé, en tout cas, à tout le moins jusqu'au 18 mai pour les deux prochaines semaines. Probablement jusqu'à la fin mai. Par la suite, on va évaluer la situation, là. Ce qu'on observe, c'est que de toute façon, les citoyens peuvent obtenir beaucoup de services, là, soit par Internet, par téléphone. Donc, il n'y a pas grand pour le moment, il n'y a pas de nécessité à avoir des rencontres physiques. Évidemment, il y a la question là, des inspecteurs municipaux, parce que, évidemment, avec l'arrivée du beau temps, les gens veulent faire des travaux sur leur propriété. Donc, il y a cet élément-là qu'on va probablement regarder dans les deux prochaines semaines, à voir comment on peut arrimer... la MRC, la municipalité, notre inspecteur et le besoin des gens de rencontrer ces inspecteurs-là. Donc, pas nécessairement à court terme, mais au cours des deux prochaines semaines là, pour mettre en application peut-être dans deux ou trois semaines. Voilà.
OK. Juste une petite précision, là, je sors un petit peu du sujet, c'est que je viens, Monsieur Guénard est en train de m'écrire sur le téléphone, il est avec nous au téléphone, il n'est pas capable d'activer son micro, mais il est avec nous là, depuis le début de la séance, là. C'est dans la liste, là, c'est notre appelant anonyme, on essaie de régler un peu la situation pour qu'il puisse être actif, là, fait qu'on est en train de régler ça. Fait que si vous me voyez un petit peu au téléphone, c'est ça que j'essaie de régler. Donc, M. Landry s'est prononcé. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui aimeraient manifester leur opinion?
Pierre Damour.
Monsieur Damour, allez-y.
Peut-être quelques commentaires. D'abord, c'est sûr que toutes les mesures préventives, là, peut-être davantage, tu le terme, apprendre à vivre avec le COVID parce qu'il va être avec nous un certain temps. Donc, je pense que c'est important qu'on soit dans une réflexion des mesures à mettre en place qui vont tenir dans le temps, probablement quelques mois. Là. La période estivale, elle va peut-être nous donner un peu de pause, mais j'en suis pas sûr. Mais il faut être prêt aussi à être dans ce mode de gestion-là, là, incluant l'automne 2020, je crois. Donc, ça, c'est une. Toutes les mesures, là, s'assurer qu'on est capable de mettre en place des mesures qui favorisent le télétravail pour un certain temps. Et s'il y a à mettre en place des rencontres en personne physique, bien, il faut être capable d'avoir des mesures préventives en conséquence. Peut-être une préoccupation en regard du service de développement, le retour au travail là, dans des volets d'agents de développement local ou les autres secteurs d'activité. Bien, évidemment, il faut voir dans quelle mesure il y a une reprise au niveau de ces activités-là. Donc, peut-être une prudence avant la réembauche de ces gens-là. Puis, finalement, peut-être une question, Mme Lévesque, au niveau du service de génie. Est-ce qu'il y a des chantiers qu'on considère déjà qui seront reportés? Et au niveau de la gestion des coûts, là, on peut présumer que cette situation-là va engendrer nécessairement des coûts supplémentaires s'il y a en place des mesures de distanciation. Alors, si l'ensemble des effectifs ne sont pas en fonction sur des projets précis, parce qu'on sait que c'est un service qui s'autofinance, là, peut-être voir l'impact que ça pourrait avoir là, sur les gens qui ont confié des mandats de travail du côté du service de génie. Alors, voilà pour moi. Merci.
Madame Lévesque, une réponse?
Oui. En date d'aujourd'hui, on n'a pas d'informations là, au niveau de l'impact des mesures que les entrepreneurs vont devoir mettre en place sur les prix des soumissions. On a du personnel qui était en formation justement là, après-midi là, pour avoir là, un son de cloche à ce niveau-là. Puis, en ce qui concerne les projets là, qui étaient dans le carnet de commandes là, pour cette année, on avait un impératif de réalisation au 31 décembre 2020 par le ministère des Transports. Ça regroupait pas mal tous nos projets là, qu'on avait là, cet été. Fait que c'est sûr que si cet échéancier-là du 31 décembre 2020 reste en place, on va devoir réaliser là, les travaux là, sans faute. Là. Sinon, les municipalités là, risquent de perdre là, leur financement. À ce niveau-là aussi, on est en attente là, des retours du ministère des Transports. Là. On a adressé des demandes là, auprès des ministères concernés pour voir si eux prévoyaient là, prévoyaient là, reporter là, les dates butoirs là, du 31 décembre là, à une ultérieurement. Fait qu'on va gérer là, quasiment de la gestion au jour le jour. Mais on ne pense pas là, qu'au niveau de nos effectifs, là, on a quand même pas mal de travail là, présentement. Là, on a quand même certains chantiers là, pour lesquels on a l'assurance qu'on va démarrer. On est confiant là, de pouvoir maintenir nos activités là, encore pour quelques mois.
Bien, merci, Mme Lévesque. Peut-être en complémentaire sur les volets administratifs, évidemment, les hôtels de ville chez nous, du côté de la ville de Mkoui, là, c'est encore fermé. La réflexion se poursuit, mais tant qu'on va être en mesure de favoriser le télétravail, on va le faire. Mais on n'a toujours pas d'échéancier à convenir d'arrêter là, pour une réouverture des hôtels de ville, de toute façon. On n'a pas encore de consigne du MAMH à cet effet-là, mais ce serait peut-être intéressant là, que les municipalités et la MRC, si on se donne une stratégie commune, qu'on ait peut-être même la même séquence là, de réouverture de nos bureaux. Merci.
Gérard Grenier, au Lac aux Saumons, nous autres, on a un chantier qui commence la semaine prochaine. Fait que, oui, il va y avoir des gens au bureau. Puis, mais les salles, la salle est organisée pour avoir pour respecter les normes, là, les normes de distance, là, fait que, là, on va pouvoir faire des rencontres là, pour décoller le chantier.
Merci. Madame Landry.
On va devoir, tôt ou tard, de toute façon, ouvrir les portes, mais comme chaque directeur a amené le point de vue, puis les autres sont à même de voir qu'est-ce qui est le plus important à démarrer. Il faut que tout le monde démarre tout en même temps, parce que ça va être l'enfer. Mais avec toutes les mesures qu'il y a à faire, puis qu'on prend déjà, on va devoir vivre avec ça quand même plusieurs mois. Fait qu'on va... c'est les gens qui vont décider au fur et à mesure que, de leurs besoins.
Bon, ça coupe. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, ça irait pour ce point-là. Monsieur Lavoie, ça complète. Est-ce que vous avez,
oui? En conclusion, oui, il faudra, à partir de tout ce qui a été avancé là, aujourd'hui, on va continuer notre réflexion. Il est fort probable qu'on aura peut-être d'ici deux semaines là, un CA spécial là, peut-être pour vous présenter là, un plan plus précis là, graduellement, peut-être par phase aussi là, de tous les points là, qu'on a avancés là, tout à l'heure. Alors, le but aujourd'hui, c'était un peu de partager nos points de vue et nos possibilités, nos particularités, là. Mais l'objectif, c'est de produire un plan là, de réorganisation là, par phase. Là, qu'est-ce qu'on fait en premier? Puis éventuellement, si ça se passe bien, comment on peut aller un peu plus loin? Là. Alors, attendre au mois de juin, je trouverais que ce serait tard un petit peu, surtout que notre séance de CA, je pense, est plus vers la mi-juin là, ou 10 juin, quelque chose comme ça. Là. Il est fort probable qu'on fasse un petit comité de travail d'ici deux semaines, là, probablement, pour vous soumettre quelque chose là, en lien avec les réflexions qu'on vient de faire. Merci.
Pour tenir un CA spécial, on pourra le faire aussi. Là. Je pense que la situation peut l'exiger, puis je pense qu'il faut être ouvert à ça. Donc, ça ferait le tour de ce point-là. On irait au point 7.2 immédiatement. Donc, régime de retraite simplifié. Monsieur Lavoie aussi qui va nous parler oui. de ce point-là.
C'est un point d'information parce qu'en fait, il n'y a pas de décision à prendre là, par le comité administratif ou l'employeur dans ce dossier-là. On vous informe que il y a un mandat qui a été donné au consultant là, qui fait le travail au niveau du renouvellement des contrats d'assurance collective. On est dans un regroupement là, pour les de plusieurs municipalités là, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des MRC également, de la Côte-Nord. Notre regroupement là, qu'on est composé de plusieurs partenaires municipaux. Alors, il y a un mandataire, il y a un consultant qui est embauché par l'UMQ pour faire toutes les démarches en lien avec les appels d'offres puis les renouvellements de contrats d'assurance collective. Et cette année, il nous avait fait une proposition de faire l'analyse là, sans frais là, de notre régime de retraite qui est en vigueur à la MRC de la Matapédia. Et cette analyse-là, elle a été faite. Et il y a des recommandations qui nous sont adressées là ou qui sont adressées au personnel et j'aimerais vous en faire part. Il y a un rapport qui a été produit. Je le présenterai pas au complet là. Si ça vous intéresse, vous pourrez le consulter là. Mais il y a un document dans votre tablette sur votre tablette là qui fait l'analyse là, ou un survol du régime de retraite actuel et les recommandations là qui nous sont faites là, qui nous sont adressées. Ce rapport-là a été présenté au personnel et actuellement, on est en consultation là, pour savoir qu'est-ce que les gens en pensent ou s'ils ont des commentaires ou des questions à formuler à l'égard de l'analyse qui a été faite et de la recommandation qui est adressée, qui nous est adressée. Alors, je vois rapidement, là, je suis à la page 6, là, où on présente un survol du régime actuel. Alors, le régime actuel, ça s'appelle un régime de retraite simplifié. C'est un régime à cotisation déterminée, donc c'est pas un régime à prestation déterminée comme la fonction publique ou certaines entreprises, là, mais où on connaît le montant qui va être versé à la retraite là parce qu'il est garanti là, par le régime. Alors, ça ressemble à un régime, un rire collectif. Alors, chaque employé décide là de selon son profil d'investisseur, là, s'il est ambitieux ou conservateur, ben il décide des fonds dans lesquels il va investir son régime de retraite. C'est le participant là, qui est responsable des frais de gestion sur ses placements, selon lequel placement il choisit ou lesquels il choisit. Et puis c'est lui qui va recevoir à la retraite là le fruit de ses placements là, pour se payer une rente là, de retraite là, selon ses besoins. À la page 7, vous avez également un petit peu plus de détails. Là. Donc, l'employé doit verser 5 % de son salaire s'il veut que l'employeur verse la même chose. Donc, 5 % du salaire de l'employé est versé dans le régime de retraite de l'employé, à condition que l'employé verse le même montant. Donc, aussitôt que l'employeur et l'employé, là, bien entendu, l'argent de l'employé appartient à l'employé, mais aussitôt que l'argent de l'employeur est versé une fois par mois dans le régime, bien, il appartient à l'employé. Donc, c'est à lui, c'est une acquisition immédiate qu'on appelle. Par contre, les retraits, les cotisations patronales ne sont pas permis. Donc, l'employé ne pourrait pas décider pour X raisons. Ben moi, cette année, il manque de l'argent pour financer mes fins de mois ou ma fin d'année, je vais retirer un montant de mon régime de retraite. Il pourrait le faire dans son fonds personnel, ce qui n'est pas recommandé, bien entendu, parce qu'il y a de l'impôt à payer là-dessus, mais il pourrait pas prendre la part qui est versée par l'employeur parce qu'elle est c'est pas permis. C'est permis seulement à l'âge de la retraite parce que l'argent versé par l'employeur. L'objectif, c'est d'offrir une retraite à l'employé. Donc, le choix des investissements se fait par l'employé aussi. Puis la fiscalité, ben comme un rire collectif, là, c'est pas imposable. Y a les rendements qui sont produits sur les placements ne sont pas imposables. Seulement les décaissements à la retraite vont devenir imposables. Qu'est-ce qu'on a dans le régime actuellement? Ce régime-là a été mis en place en 2009. Il y avait déjà un autre régime auparavant, là. Donc, il y avait déjà des fonds accumulés auparavant, mais actuellement, là, en février 2020, la caisse totale, c'est 2,5 millions là, qu'il y a dans la caisse. Il y a 52 participants. L'actif moyen des participants, c'est 50 000 $. Et la cotisation versée annuellement, là, ou en 2018, c'était 278 960 $. Puis l'âge moyen des participants est de 43 ans. Le régime actuellement, il est offert par Fiducie Desjardins, qui est administré par le biais de la caisse locale Desjardins à Amqui. La tarification des frais de gestion, c'est une tarification dite individuelle. Donc, selon le montant que chaque participant a à gérer ou à déposer à l'institution, ben il y a des taux des ratios de frais de gestion basés sur le montant que le participant dispose. Donc il y a une offre de placement également là qui est proposée pour les fonds Desjardins, pour ceux qui connaissent là, les fonds Diapason principalement sociétaires ainsi de suite. Il y a eu une demande de fait auprès de Desjardins Sécurité Financière qui est une autre entité de Desjardins, mais qui est vraiment, elle, spécialisée, là, entre guillemets, sur des régimes de retraite ou de l'assurance collective ou de ce genre de choses-là. Et la particularité, c'est que les frais de gestion, ils sont basés sur le montant total que disposent les participants. Donc, à titre d'exemple, si moi, je vois dans n'importe quelle institution financière avec un montant de 50 000 $ à placer, ben l'institution va me donner des propositions puis des frais reliés à ça selon le montant que j'ai, 50 000. Alors que Desjardins Sécurité Financière, lui, ce qu'il offre aux participants, ben c'est comme si j'arrivais avec un montant de 2,5 millions. Alors, je me présente dans une institution financière, j'ai 2,5 millions à placer. Si vous voulez l'avoir, quelles sont les conditions pour que je vous confie ce montant-là? Ben, c'est bien entendu que j'ai un pouvoir d'achat, entre guillemets, pas mal plus intéressant, plus alléchant pour l'institution, de sorte que l'institution va me donner des ratios de frais plus intéressants. Donc, la beauté de Desjardins Sécurité Financière, c'est le fait que l'ensemble du personnel va profiter des frais de gestion réduits comme si chacun avait 2,5 millions. Donc, dès la première, le premier dollar investi, peu importe le montant, je suis un nouvel employé à la MRC, je commence à travailler, je commence à percevoir des prestations de retraite de l'employeur et de l'employé. Dès le premier dollar, je vais bénéficier du ratio de frais de gestion comme si j'avais 2,5 millions à placer. À la page 13, il y a une illustration qui donne les comparatifs des frais de gestion avec la fiducie Desjardins, puis avec Desjardins Sécurité Financière. Alors, la page 13, vous avez les trois dernières colonnes qui montrent les frais de gestion selon le fonds. Puis les fonds, ben, c'est les mêmes. Là, c'est des fonds Desjardins. Donc, c'est les mêmes fonds. Il y a peut-être des particularités dans les deux institutions, là, mais les fonds comparables, là, les deux institutions les ont. On a également le 2,5 millions. Là, comment il est réparti dans les différents fonds offerts là, par l'institution par Fiducie Desjardins. Puis on voit là, grosso modo, sociétaire équilibré, 33% du montant là, va là. Un autre montant important, diapason croissance modérée, 23%, ainsi de suite là, pour tous les autres. Alors, les frais de gestion là, de Fiducie Desjardins, la troisième avant-dernière colonne, on les a. Les fonds moyens pondérés selon le pourcentage des montants qui sont placés dans les différents fonds, c'est 2,33%. Pardon, 2,23%. Les frais négociés ou la proposition que Desjardins Sécurité Financière nous a fait, là, vous avez les ratios de frais de gestion dans la colonne suivante. Alors, si on fait la même compilation, là, ça fait un taux moyen de 1,33. Donc, il y a un écart de 0,9% de frais de gestion moins élevés. Par rapport à ce qui est présenté là, par contre, Fiducie Desjardins avait omis de mentionner aux consultants qu'il y avait, dans le régime actuel, des rabais de frais de gestion qui étaient appliqués. Dépendamment du montant, plus que ton montant était élevé de tes placements, plus que tu avais des rabais. Mais il y a eu une comparaison qui a été faite, puis les rabais, le taux de 2,23 serait peut-être réduit à 2 ou 1,95, mais il y aurait quand même un écart significatif là, par rapport à ce qui est offert là, à chaque participant là, chez Desjardins Sécurité Financière. Donc, puis un petit peu plus loin, là, à la page 18, il y a eu, à 17 et 18, là, il y a eu une hypothèse ou un scénario de fait là, pour montrer que un écart de 0,9% là, de frais de gestion, ben, ça veut dire que tes rendements sont en partant presque 1% plus élevés à chaque année. Donc, plus tu vas avoir d'argent dans ton fonds, plus ça va te donner des rendements des montants plus élevés à la retraite. Alors, il y a un exemple qui a été fait là pour un employé là, d'un âge moyen de 43 ans qui aurait 48 000 $ dans son compte, qui aurait un salaire actuellement estimé à 63 000 et puis qui anticipe des augmentations de salaire puis un rendement attendu. puis la cotisation patronale en passant va passer à 6% à compter de 2021. Alors, le calcul a été fait, puis ça donne 69 000 $ de plus là à l'employé qui a 43 ans s'il prend sa retraite à 65 ans en ayant 0,9 % de plus. Donc, la recommandation qui a été faite, qui est faite par le consultant, c'est d'envisager là, le transfert de la caisse de retraite chez Desjardins Sécurité Financière. Puis Desjardins Sécurité Financière, bien, comme c'est une entité spécialisée là, dans les régimes de retraite, bien, il offre une panoplie de services, d'accompagnement là, aux employés qui sont au début de leur carrière, au milieu de leur carrière ou à la fin de leur carrière, puis que la retraite est envisagée là, dans les prochaines années. Donc, il y a des produits financiers là, de placement qui sont offerts en conséquence là, de la situation de chacun des membres du personnel. C'est un produit Desjardins, donc la façon de livrer le produit, c'est sûr que c'est pas des employés des caisses locales qui offrent ce produit-là, par contre, mais ce sont des plateformes là, conviviales là, où les participants peuvent avoir accès aux informations sur leur placement, le rendement, etc. Ils peuvent avoir accès également à des rencontres ou à des appels là, ou à des conseils de la part de personnes là, qui sont ne font que ça là, chez Desjardins Sécurité Financière. Donc, l'orientation qui est en cours, là, c'est que ben, il y a une consultation qui est faite, qui se terminait aujourd'hui, là, jusqu'à la fin de la journée. Là. Les employés avaient eu l'occasion de poser des questions, d'avoir vu la présentation, d'avoir posé des questions, d'avoir obtenu ces réponses-là, et j'ai demandé au personnel de se prononcer. Êtes-vous faudrait que la très grande majorité des personnes acceptent de faire ça, ce transfert-là, parce que les propositions qui sont faites sont basées sur le fait que la très grande majorité là, du montant à transférer va être transféré, sinon les taux de ratio de frais de gestion pourraient varier là, selon le montant qu'on transfère. Alors, actuellement, j'ai pas eu de réponse négative là, du personnel là, à cet effet-là. Alors, c'était pour vous informer, là, l'employeur n'a pas à décider où les employés vont verser leurs fonds parce que ces fonds-là leur appartiennent. D'autant plus que, sans doute, j'ai aucune idée, là, je ne suis pas les comptes un par un, là, je ne vais pas le faire non plus, là. Certains membres du personnel peuvent déjà décider de transférer à une autre institution de leur choix l'apport qu'ils peuvent transférer. Par exemple, c'est fort possible là, que ça existe, ça, que des employés ne sont actuellement pas avec Fiducie Desjardins pour l'apport qu'ils peuvent transférer, pas l'apport de l'employeur, mais l'apport de l'employé. Ça peut arriver. Là, c'est un choix personnel de chacun des membres du conseil. Pas du conseil, mais du personnel. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires à faire à ce sujet-là.
Ben, je veux juste demander à Georges s'il peut nous faire coucou. Ça semble fonctionner.
Oui, ça fonctionne présentement. Je n'étais pas capable avec mon cellulaire. Il faut que qu'il est à veille de rendre l'ombre. Là.
Ah, des fois, c'est en arrière du volant que...
il reste deux mois à vivre. J'essaie de l'étirer, mais... Ça marche pas.
Parfait. Ben, l'important, c'est que ça fonctionne. Merci, M. Guénard. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires par rapport à ce que M. Lavoie vient de nous présenter? Ça semble... Oui, M. Guénard?
Non, j'ai fermé.
Ah, OK. C'est bon. Il a ouvert. Ça va? Donc, c'était un point d'information, c'est ça? On irait au point 7.4, demande d'appui Mordicus. Donc, c'est moi qui vais vous parler de ça. Diffusant Mordicus, dans le fond, le but, c'est d'adopter une résolution. Là, il m'a envoyé une correspondance, à la MRC le 27 avril concernant justement une demande d'appui à leur démarche de demander pour de leur démarche afin de demander d'obtenir des directives claires pour le secteur des arts de la scène. On sait que le gouvernement adopte plusieurs affaires là, dans le cadre du COVID, mais ce secteur-là est comme pas, c'est pas clair les directives. On sait que le gouvernement, le 10 avril, demandait l'annulation des grands événements culturels et sportifs jusqu'au 30 août. Mais dans cette directive, les salles de spectacle ne figurent pas et laissent le milieu des arts de la scène en suspens. Donc, la mise en place et le respect de mesures de distanciation et sanitaire sont extrêmement difficiles et contraignantes pour effectuer un spectacle en salle. Et évidemment, ben, il faut souligner que pour reprendre la présentation de spectacles là, qui ont été annulés, il faut prévoir la mise en marché, la planification logistique, technique, la vente de billets. Puis, sans consigne claire, ça devient difficile de pouvoir prévoir quoi que ce soit. Puis, d'autant plus, là, ce que me disait aussi M. Coutu, ben, c'est si notre salle n'est pas pleine, on est obligé d'y aller avec la distanciation. Ben, souvent, ça fait une grosse différence sur le prix du billet ou sur le coût des spectacles. Donc, c'est difficile de pouvoir rentabiliser tout ça. Donc, Diffusion Mordicus demande au gouvernement d'adopter des mesures claires et conséquentes à moyen terme. Donc, afin de donner des perspectives de travail claires et cohérentes à tout le secteur. Une suspension des spectacles dans les salles est souhaitée par le ROSEC. Donc, Diffusion Mordicus fait partie du ROSEC, là. Jusqu'au 31 août, comme l'autre directive là, est faite pour les spectacles, les événements et les événements sportifs et culturels. Donc, il demande aussi qu'il y ait des mesures compensatoires qui soient mises en place pour appuyer les intervenants qui sont touchés dans le secteur des arts et de la culture, chose qui n'a pas été nommée encore non plus. Donc, on a quand même, moi je vous dirais que cette correspondance-là, je l'ai eue le 27 avril. Vous savez que dans le cadre, depuis le début de la pandémie, il y a des conférences téléphoniques qui se font avec beaucoup de ministères au niveau de la région et tout ça. Donc, dans l'heure d'une de ces rencontres-là téléphoniques avec des représentants de ministères, cet élément-là a été soulevé. Et puis, il y a d'autres régions, hein, Rivière-du-Loup, Rimouski, tout ça, qui ont cette même préoccupation-là aussi. Donc, ça a été soulevé, mais on n'a pas encore rien reçu. Donc, comme je ne veux pas attendre la semaine prochaine pour le Grand Conseil, je pense que c'est quand même une demande qui est importante d'être faite assez rapidement. Pour ça, je le soumets au comité administratif aujourd'hui. Donc, est-ce que vous êtes en accord d'adopter une résolution en appui avec les démarches entamées? Je ne vous lirai pas les considérants qui sont ceux que je viens de vous nommer. Et donc, en conséquence, ce serait de demander au gouvernement du Québec d'adopter des mesures claires et conséquentes à moyen terme afin de donner des perspectives de travail claires et cohérentes à tout le secteur des arts et de la scène. Demander une suspension des spectacles dans les salles jusqu'au 31 août en alignement avec les grands rassemblements culturels et sportifs et mettre en place des mesures compensatoires pour appuyer les intervenants du secteur des arts et de la culture qui sont grandement affectés par le contexte de la COVID-19. La COVID-19, oui, je recule, moi, là. Puis, je vous ai mis aussi une copie de la lettre de Diffusion Mordicus. Que vous avez des questions? Ça va? Est-ce que vous êtes en accord? Ça me prendrait une proposition.
Proposer,
Gérard. Ah, Gérard propose. Donc, M. Grenier propose, M. Lepage.
D'accord.
Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Comme les points qu'on avait priorisés, je reviendrai dans l'ordre du jour au point 7.1, qui est l'autorisation des travaux par Véloroute Desjardins de la Matapédia.
Oui. Comme à l'habitude, le conseil d'administration ou le personnel de la Véloroute demande l'autorisation de la MRC pour pouvoir effectuer les travaux là, d'entretien de la route verte. C'est le tronçon visé, c'est celui du TNO de Routierville. Alors, vous avez le document là, qui présente une résolution et la nature des autorisations qui seraient données là, pour faire les travaux là, requis là, par l'entretien de la route verte. Alors, c'est pas une résolution pour autoriser cette entreprise-là à faire les travaux d'entretien.
M. Landry propose, c'est appuyé. Madame André, on ne vous a pas vu.
J'appuie.
Merci. J'appuie. Ça va pour tout le monde? Oui, merci. Ça va? Donc, on... point suivant, projet rue de la Congère à Val-du-Reine. Monsieur Lavoie, vous allez nous présenter ça?
Oui, c'est un suivi administratif là, du projet de développement là, de la villégiature dans le parc régional de Val-d'Irène suite à la, la mise en vente là, de terrain. Alors, on aurait trois résolutions à adopter aujourd'hui. Une résolution qui autorise la cession de la rue projetée là, à Saint-Irène, à la municipalité de Saint-Irène. Donc, c'est un prolongement de la rue de la Congère. C'est le lot 6 360 480, cadastre du Québec. Alors, ça prend un contrat notarié pour le transfert. C'est à titre gratuit. Alors, on cède la rue, l'emprise de la rue à titre gratuit à la municipalité. Ça prend une résolution pour autoriser la signature de l'acte notarié là, pour le transfert de cette propriété.
Je propose.
Monsieur Lepage? Monsieur Lepage, vous proposez? Ah, monsieur Guénard? Vous avez dit quoi,
monsieur Guénard? Oui, j'appuie.
Parfait. Ça va pour tout le monde. La deuxième?
La résolution suivante, c'est pour autoriser la cession d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec là, pour l'installation de la ligne électrique, des poteaux et des haubans là, qui... accessoires à cette ligne électrique-là. Vous avez un plan là, qui vous a été déposé par Hydro-Québec, l'emplacement des poteaux, de la ligne et des haubans qui vont, dans la totalité des cas, là, être en partie dans l'emprise de la rue, mais en partie sur les lignes séparatrices là, des propriétés qui vont être cédées. Alors, ça nous prend une autorisation. Hydro-Québec demande des servitudes là, notariées là, pour ces emprises-là. Alors, ça me prend une autorisation pour autoriser la signature du contrat notarié qui va concéder à Hydro-Québec les servitudes requises là, pour la ligne électrique.
Madame Landry?
Je propose.
Monsieur Guénard?
Oui, je seconde.
Merci. Enfin, la troisième.
La troisième résolution, c'est de m'autoriser là, à faire les versements prévus à la municipalité de Saint-Irène au fur et à mesure des déboursés qui vont être faits par la municipalité dans ce dossier-là, notamment lorsque l'entrepreneur va commencer à réaliser les travaux. Le contrat a déjà été octroyé et également la municipalité repayer certains honoraires là, qui vont lui être chargés, mais qui sont à rembourser dans le montage financier du projet. L'entente et l'addenda qu'on avait signé cet hiver, là, puis l'addenda plus récemment au mois de, je pense au mois d'avril, là, ouais, exactement, au mois d'avril que le conseil avait approuvé cette entente-là, fait part ou fait état précisément des montants là, qui seront à rembourser à la municipalité de Saint-Irène et qui font partie là, du montage financier là, du projet. Alors, compte tenu que la municipalité n'a pas des grosses liquidités, il avait été mentionné dans l'addenda que dans les jours suivant le paiement, que la MRC puisse rembourser si ce montant-là est remboursable rapidement là, pour pas que la municipalité ait recours à une marge de crédit ou ces choses-là. Donc, ce serait pour m'autoriser là, à faire les paiements là, en conformité avec l'entente là, qui a été signée entre les parties.
Je propose.
Monsieur Guénard propose. Monsieur Lepage?
Oui.
Monsieur Lepage appuie. Ça va? Parfait. Donc, le point 8, l'exercice de maintien de l'équité salariale. Monsieur Lavoie.
Oui. C'est un exercice qui doit obligatoirement être fait là, par les entreprises là, qui ont un certain nombre d'employés qui, à chaque 5 ans, doivent faire un exercice d'analyse de maintien là, de l'équité salariale. Cet exercice-là a été fait en 2015 pour la MRC, donc doit être refait en 2020. pour faire cet exercice-là, on a besoin d'avoir des outils et on a toujours obtenu là un accompagnement là, de la firme Mallette d'une ressource qualifiée là, en gestion des ressources humaines pour nous assister dans la réalisation de cet exercice-là. C'est prévu au budget, c'est un montant quand même pas très élevé là. Il me semble qu'en 2015, c'était autour de 3 000 $ que ça avait coûté. Là, on peut penser que ça pourrait être un petit peu plus là cette année. Mais nos documents ou nos outils de notre côté, là, les documents qu'on doit déposer aux consultants pour faire l'exercice, on est presque prêt là. C'est-à-dire que les échelles salariales sont déterminées, sont en vigueur, sont en application jusqu'en 2021. Les descriptions de tâches ont été revisées ou sont sur le point d'être, la révision est sur le point d'être complétée de l'ensemble du personnel, donc des mises à jour en 2020. Et c'est sûr que depuis 2015, il y a eu des nouveaux postes de créés, donc ils vont influencer là, la cotation de chacun des postes pour déterminer si nos politiques de rémunération de notre personnel sont équitables, là. Les emplois à prédominance féminine reçoivent une rémunération équitable par rapport aux emplois à prédominance masculine. Alors, il y a un mandat qui est donné, puis le mandat, c'est un mandat d'accompagnement. C'est moi qui fais le travail, mais j'ai besoin d'un accompagnement, là, puis d'avoir les outils qui sont utilisés depuis très longtemps à la MRC là, pour faire cet exercice-là. Alors, Mallette dispose de ces outils-là. Et ce que j'ai, vous voyez une description là, du mandat, et également le mandat prévoit que la ressource là, qui va accompagner le directeur général va venir présenter les résultats de cet exercice-là au comité administratif, de même qu'au personnel. Alors, si vous êtes d'accord, j'aurais besoin d'une résolution qui autorise le directeur à demander une offre de service, là, puis à conclure une offre de service avec le consultant. Ce travail-là se ferait probablement dans le courant de l'été pour être terminé là, à la fin de l'été ou au début de l'automne là, pour être présenté au personnel par la suite.
Super. Est-ce qu'il y a des questions?
C'est proposé. Ben,
Monsieur Grenier, proposé. Madame Landry.
J'appuierais.
Madame Landry appuie. Ça va pour tout le monde? Parfait. Donc, pour le 9.1, ben, c'est un rappel hein, de la prochaine séance du conseil du comité administratif le 10 juin à 16h. Donc, je vous fais le rappel. Et le petit point, je pense que j'ai bien oublié. Le dernier petit point, c'est la formation FPM. Donc, comme je vous ai envoyé un petit courriel cette semaine, les membres du comité administratif, puis j'ai aussi envoyé à notre comité élargi là, au niveau de la gouvernance. On a mandaté le comité administratif au niveau de la gouvernance et on avait ajouté à ce comité-là le maire de Kuzapskal et de Sébec. Donc, je ne sais pas si vous avez tous eu le temps de voir ce courriel-là, c'est que la formation est demain après-midi. C'est une web conférence, là, c'est sur le web, un webinaire, excusez, je vais dire le vrai mot. C'est à votre ordinateur. C'est de 2h, donc 14h dans l'après-midi. Ça dure 2h, donc de 14h à 16h. Et si ça vous intéresse, là, vous pouvez consulter le courriel que je vous ai envoyé le 4 mai, donc lundi, si je ne me trompe pas. Vous avez tous les éléments là-dedans pour aller vous inscrire. Le lien est là pour aller s'inscrire puis tout ça. Si vous avez une difficulté, vous pouvez me contacter. Là, ça me fera plaisir de vous donner un coup de pouce. Puis, évidemment, ben, ça serait comme un peu on mettrait la table un peu justement à la réflexion qui va suivre là, par rapport à ce mandat-là sur la réflexion au niveau de la gouvernance de la MRC. C'est un atelier qui s'appelle la MRC les clés. Attendez, je vais trouver le vrai terme là. La MRC, les clés d'une gouvernance régionale efficace. Donc, je pense que ça rentre directement en ligne avec ce qu'on veut faire aussi comme réflexion. Il y a tout le petit descriptif qui est dans votre courriel aussi. Mais c'est parce que moi, on m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Là, il n'y a pas de nombre maximum d'inscription. Si vous voulez vous inscrire demain matin, il n'y a pas de problème. C'est sûr que si vous inscrivez à 1h30 pour la formation à 14h, ça peut peut-être causer des problématiques, mais pour retourner le lien, tout ça. Mais sinon, demain avant midi, vous pouvez vous inscrire sans problème à ce niveau-là. Puis, c'est offert par la FQM, le service de formation de la FQM. Et on m'a dit aussi qu'éventuellement, si lors de cette conférence-là, de ce webinaire-là, il y avait des éléments qui, nous, particulièrement, on voulait développer davantage, ça serait possible de faire une genre de webinaire, mais en formule plus privée sur ces points-là. Enfin, on analysera ça pour voir aussi. Il y a quand même quelque chose là, qui peut être intéressant si on pense qu'on va aller plus loin que ça aussi. Sinon, peut-être que non. Là. Donc, c'est un point d'information. Est-ce que je vous ai bien résumé ça? Je ne vous ai pas trop étourdi? Je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns qui se sont inscrits parce qu'ils m'ont écrit pour me le dire. Puis évidemment, vous allez mettre l'inscription au nom de la MRC, puis on va s'assurer de payer les frais d'inscription là, parce que c'est concernant le mandat à la MRC. S'il n'y a pas d'autre chose que vous voudriez porter à l'attention à l'heure du jour, je pense qu'on serait rendu à la levée de la rencontre.
Moi, j'aurais rien qu'un petit point que je n'ai pas pu dire parce que je n'étais pas capable d'ouvrir mon micro. C'est concernant dans la liste des comptes à payer. Je sais qu'Edith n'est plus là, mais je suis convaincu que Mario peut me répondre sur ce questionnement-là. C'est le point 39.911.
9.11?
Oui, 9.11. C'est marqué 12.13, cantine Fortier, repas incendie.
Je présume que c'est des repas qui sont pris lors d'une intervention incendie. Alors, si les pompiers doivent intervenir sur une intervention, puis il y a un repas là, qui a été sauté, là, notre policier de relations de travail avec les pompiers prévoit qu'il y a un paiement là, qui se fait là, pour les repas. Mais je peux pas. C'est marqué. Je pense qu'il y a plusieurs interventions. Il y a plusieurs dates là ou plusieurs interventions à lien avec.
14.
Ouais.
C'est les numéros de chèque, Mario.
Ouais, je suis d'accord, mais c'est.
Ben moi, c'est moi qui ai fait la vérification des chèques là. Je peux peut-être apporter quelques informations là, parce que considérant que vous pouvez pas venir au bureau signer les chèques, évidemment, je fais la vérification. Donc, ce que j'ai vu, c'est effectivement une intervention, mais il y a comme des sommes qui sont... je sais pas s'ils vont comme en groupe différent, là. Peut-être deux ou trois groupes qui vont manger ou chercher leur repas. Fait qu'ils font la somme de plusieurs ensemble. C'est comme trois blocs, là. Fait que les chèques, trois, puis là, c'est même quatre, là. C'est comme quatre blocs qui ont été payés parce que c'est comme... je sais pas si c'est un des pompiers qui paye puis c'est remboursé à lui, mais les chèques, c'est... La même intervention, mais c'est comme dans des blocs séparés. Ça donne au global ce montant-là. Là.
OK, c'est parce que j'ai pas vu ça souvent là, sur les autres comptes qu'on a payés concernant pour l'incendie. Là. Mais c'est pour ça que je me posais la question, qu'est-ce que c'était ça? Là.
Moi, je l'ai vu à quelques reprises, là, mais ceux qui signent les chèques, peut-être, M. Blepage, je vous l'avais fait plusieurs fois, c'est assez... Voyez-vous ça régulièrement?
Je l'ai fait une fois, mais je n'ai pas vu.
Ah, OK. C'est sûr que dernièrement, M. Guénard, il n'y a pas eu beaucoup d'interventions. Hein? Fait que il y a eu moins d'interventions. Puis comme M. Lavoie dit, c'est vraiment dans une politique là, avec les services incendie. Fait que des fois, il y a des interventions, puis ça couvre pas cette période-là. Mais en tout cas, moi, je peux vous assurer que ce que j'ai vu était conforme. Là.
Ben, c'est correct. Hein?
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour la levée de la séance.
Georges?
Monsieur Guénard, appuyé de... Oui. Monsieur Lepage?
Oui.
Ben, c'est parfait. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, nous, on se reparle à 19h30 pour la séance de travail.
C'est bien.
Merci tout le monde.
Bon, ben, putain.
Bye-bye.